Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Diffusés tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par Bertrand Chometon avec Jacques Azubert à la technique et préparés par Jeanne-Marie Roux, Avril Ventura, Mathilde Unger, Geneviève Méric et Adèle Van Rett. Adèle Van Rett qui vous donne rendez-vous tout à l'heure comme tous les jours à 10h50 pour le journal des Nouveaux Chemins où elle recevra le sociologue David Le Breton pour son livre sur l'expérience de la douleur. Suite et suite, ce jeudi, d'une semaine sur Aristote, dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après Frédéric Werther, venu lundi vous parler du caractère. Bernard Sicher, venu mardi vous parler de Dieu. Annick Stevens, venu évoquer la physique aristotélicienne. Et avant Anne Mercker, qui demain vous racontera l'éthique à Nicomaque. C'est Francis Wolff, le philosophe Francis Wolff, à qui l'on doit notamment un excellent Aristote et la politique paru aux presses universitaires de France. Francis Wolff donc, qui est aujourd'hui l'invité des nouveaux chemins. De même qu'un homme accompli est le meilleur des animaux, de même aussi quand il a rompu avec loi et justice, est-il le pire de tous. Un homme dans la cité, c'est-à-dire faisant corps avec d'autres, sous le toit de lois communes et obligé par les règles communautaires, est un homme accompli, achevé, et donc à sa place dans la hiérarchie des êtres, ni dieu ni bête, mais le meilleur des animaux, car capable de justice. Un homme hors de la cité est pire que la pire des bêtes, parce qu'il est naturellement doté de dispositions intellectuelles qui compensent ses déficiences en moyens physiques d'autodéfense, dont les autres animaux sont naturellement pourvus, et que ces dispositions constituent les armes les plus redoutables, sans l'éducation à la justice que donnent les lois de la cité. L'homme, animal politique, est le meilleur des animaux, et l'homme apolitique, la pire des bêtes. En effet, dit Aristote, la vertu de justice est politique, car la justice introduit un ordre dans la communauté politique et la justice démarque le juste de l'injuste. Bonjour Francis Wolff.
Bonjour Raphaël.
Bonjour, c'est un plaisir, c'est une joie de vous accueillir pour la première fois au Nouveau Chemin de la Connaissance et qui plus est pour parler d'Aristote que vous connaissez comme votre poche. Francis Wolff, c'est vous que je viens de lire là, hein, un extrait du petit livre très utile que vous aviez écrit sur Aristote, Aristote et la politique, dans la collection Philosophie aux presses universitaires de France. Et on va partir de ce texte et de ce qu'on sait ordinairement d'Aristote quand on ne l'a jamais lu, à savoir qu'Aristote est l'auteur d'une phrase fameuse « L'homme est un animal politique ». Faisons un sort à cette phrase, expliquons-la. Que signifie-t-il quand il dit cela ?
Il signifie beaucoup de choses. La première, c'est que « zoon », qu'on traduit par « animal », en réalité ne signifie pas exactement « animal ». Ça signifie un vivant, ça signifie un mode de vie, cela signifie... une façon de vivre et de réaliser son être.
Pourquoi on traduit ça par animal en général ?
Parce qu'il n'y a pas mieux ? Il n'y a pas de bonne traduction dans la mesure où pour Aristote, si on voulait rester à l'idée moderne d'animal, on dirait qu'il y a pour lui trois faunes. Il y a des animaux qui sont en dessous de nous, si je puis dire, des bêtes. Il y a des animaux qui sont au-dessus de nous, c'est ce qu'on appelle des vivants immortels, des zoa immortels, car les dieux sont des vivants, et on ne dirait pas aujourd'hui dans la langue moderne que ce sont des animaux. Et il y a des vivants qui sont comme nous, qui ont un autre mode d'être que les dieux ou que les bêtes, et qui, en particulier, sont naturellement politiques. Politique. Cela signifie, on l'entend généralement au sens de social, c'est-à-dire qu'on veut dire par là, on croit que Aristote se contente de dire par là que l'homme, au contraire des autres bêtes, mais aussi au contraire des dieux, a besoin de ses semblables pour vivre. Ça n'est pas tout à fait ce qu'il veut dire. Quand juste, on dit l'homme est un animal naturellement politique. On veut dire par là trois choses, étant donné que derrière le mot politique, il faut entendre le mot police, il faut aussi entendre le mot politeia.
Rappelons ici que police, en l'occurrence, c'est la cité.
Voilà, police, c'est la cité. Alors, Aristote, par ce mot qui est extrêmement ambigu de politique, veut dire, en tout cas dans ce contexte, trois choses. Il veut dire que l'homme, évidemment, est un être qui naturellement est social, qui naturellement est grégaire, comme beaucoup d'autres animaux, au sens strict du terme, les fourmis, les abeilles, etc. Il veut dire, deuxièmement, et de façon beaucoup plus précise, que l'homme est un animal qui vit sous un certain régime politique, nécessairement, c'est-à-dire dans une société où il y a des relations de pouvoir, dans lesquelles il y a forcément un gouvernement bon ou mauvais. Et il veut dire, troisièmement, que l'homme, dans ce qu'il a de plus élevé et de plus réalisé, de plus authentique, vit ou devrait vivre dans une police, comme les hommes les plus accomplis, c'est-à-dire les Grecs, et comme ceux des Grecs les plus accomplis, ceux qui véritablement vivent dans une cité qui est d'ailleurs, à son un point de décadence au moment où Aristote écrit ceci avec peut-être une pointe de nostalgie.
Donc, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait Aristote fait apparaître, consacre l'émergence de la philosophie politique au moment où l'objet qu'il décrit est lui-même décadent.
Exactement.
Il assiste au passage de la métamorphose des cités en empire, au fond, on peut dire
exactement,
ça comme ça.
Exactement, il assiste, lui d'ailleurs, a été
le précepteur de celui qui a
exactement qui a conquis les cités et qui marque la fin
d'Alexandre le Grand,
Alexandre de Macédoine, dit Alexandre le Grand. Il est contemporain de ce moment où la cité, le toit de la cité pour les Athéniens, les Spartiates, mais particulièrement pour les Athéniens, eh bien, est en train de s'écrouler. Et néanmoins, il considère que la cité telle que le 5e siècle et une partie du 4e siècle, du début du 4e siècle, l'a connue, est la forme la plus élevée, la plus achevée pour l'humanité de vivre politiquement. Donc, si on va du plus large au plus étroit, l'homme est un animal social, l'homme est un animal qui vit nécessairement dans des relations de pouvoir, peut-être ce n'est pas le cas des fourmis, et l'homme est un animal qui, dans le meilleur des cas, vit dans une police. Voilà les trois choses. Maintenant, il reste le dernier mot, qui est le plus important, naturellement. L'homme est un animal naturellement politique. Alors là, la thèse, il faut l'entendre d'abord de façon polémique. D'abord de façon polémique, parce que, voilà, si on voulait simplifier l'histoire de la philosophie politique, et si on voulait donner première idée des grandes divisions à l'intérieur de la philosophie politique, on dirait qu'il y a d'un côté des gens qui pensent que la politique ou la vie en société ou la vie en cité est naturelle et ceux qui pensent qu'elle est le fait d'un contrat ou d'une convention. Et il y a des gens à l'époque d'Aristote, et même des gens à une époque précédente, notamment les grands sophistes du 5e siècle, Lycophron par exemple, qui ont inventé l'idée qui va devenir fondatrice de la philosophie politique moderne.
Une sorte d'antinaturalisme politique.
Exactement, c'est-à-dire l'idée contractualiste. Ça,
c'est intéressant, parce que c'est une idée qu'on fait remonter en général au XVIe, XVIIe siècle, alors qu'en réalité, les sophistes sont les pères du contractualisme.
Lycophron, probablement Protagoras, pour ce qu'on peut en savoir, est à l'origine de l'idée que les hommes, naturellement, c'est-à-dire, disons, à l'état originel, ne vivaient pas en société ou dans une société articulée politiquement, et décrivent un peu la vie originelle comme une sorte, alors selon les cas, mais comme une sorte d'état qu'au XVIIe siècle on appellera l'état de nature, c'est-à-dire des individus isolés, mais qui à un certain moment ont besoin les uns des autres, besoin de s'unir, ont besoin de la force de tous contre la violence de chacun, si je puis dire. Et il y a donc un moment de la convention, du contrat, dans lequel c'est une formule que l'on trouve aussi chez Platon, qui l'analyse, qui la critique, qui en retient d'ailleurs une partie. Ne pas se nuire mutuellement, c'est ça l'objet du contrat. Je ne t'attaque pas si tu ne m'attaques pas. Je ne te fais pas violence si tu me... Bon, évidemment, comment on va faire pour faire respecter le contrat? Va falloir qu'il y ait une autorité extérieure, hein, une police, une armée, des gardiens.
Un Léviathan.
Voilà, ou un État quelconque armé qui va monopoliser la violence légitime et qui va nous empêcher de nous entretuer pour le bénéfice de tous. Bon, ça, c'est des théories contractualistes que Aristote connaît. Alors, un de ses, quand il écrit « naturellement politique », cela signifie d'abord « oui, naturellement et pas contractuellement ». Pourquoi ? Parce que, au contraire des contractualistes, Aristote pense que les hommes n'existent pas à l'état d'individus isolés, comme des Robinsons. Il pourrait exister quelque part des Robinsonnades, mais ce ne seraient pas des hommes achevés. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, qui est au fond la plus fondamentale, c'est qu'il pense qu'on ne s'associe pas pour survivre. On ne s'associe pas pour ne pas s'entretuer. On ne s'associe pas même, comme aurait voulu Locke, pour pouvoir préserver chacun notre petit lepin, notre petite propriété privée qu'on ne va pas...
Bon, n'y a pas de calcul derrière la nécessité absolument de s'associer, pas. C'est une nécessité inscrite dans la destinée absolument de la nature humaine.
Ce n'est pas un besoin que nous avons pour conserver nos intérêts, ce n'est pas un calcul rationnel, c'est simplement que notre bien, notre bonheur est à, j'allais dire à ce prix, c'est même pas un prix, car c'est au fond tout bénéfice. Nous n'avons de bonheur, nous n'aurons de bonheur individuel que dans la vie collective et sous le toit des lois. Et ça, c'est le texte que vous avez lu pour commencer, Raphaël. Sous le toit des lois, les lois ne sont pas faites pour nous empêcher, pour nous réprimer.
Mais pour permettre.
Mais pour permettre et pour permettre de nous réaliser. Car car les lois sont en même temps, pour Aristote, un moyen d'éducation. Les lois nous indiquent le droit chemin. On est tout à fait loin du concept moderne de loi.
C'est-à-dire qu'en vérité, quand vous parlez ici de droit-chemin, vous l'opposez au chemin du droit. Ça n'est pas la même chose. Le droit-chemin, en l'occurrence, c'est une nécessité interne qui n'obéit pas à un autre calcul qu'elle-même.
Exactement. C'est-à-dire que il y a derrière le naturalisme d'Aristote, si on peut peut-être ouvrir une parenthèse, il y a quelque chose de tout à fait singulier qui nous... qui échappe un peu à nos critères, mais qui peut être extrêmement intéressant pour nous, sur lesquels il peut être intéressant pour nous de revenir. Une des grandes questions que nous nous posons, que les hommes en philosophie se posent depuis 2-3 siècles, c'est la question « que devons-nous faire ?» Bon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal ? Dans une philosophie comme celle d'Aristote, cette question n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai à faire, c'est ce que je suis. Et le problème, c'est que ce que je suis, je ne le suis pas tout à fait, je ne le suis pas entièrement, je ne le suis pas encore. J'ai à être ce que je suis, mais quand je serai complètement ce que je suis, c'est-à-dire un homme, alors je serai parfaitement heureux. Il n'y a aucune distinction, aucune division, aucune opposition entre l'être et le bien. Ou comme aurait dit Hume, il n'y a pas de difficulté de passage de is à should, de ce que je suis à ce que je dois faire. Car en réalisant mon essence d'homme, bon, qui est inscrite en moi naturellement, en la réalisant, je ne pourrais pas être dans un meilleur état possible, et par conséquent, je n'ai pas à me poser la question de savoir ce que je dois faire. Donc, quand on dit l'homme est un animal naturellement politique, on veut dire que chaque homme réalisera sa nature d'homme, et ça va aller jusqu'au paradoxe, même l'esclave.
C'est ce que j'allais vous dire. On y vient.
même l'esclave, privé de tout droit, réalisera sa nature d'homme, je dis bien d'homme, en obéissant au maître.
Aristote parle des esclaves comme d'hommes ?
Aristote, et c'est là la grande difficulté, le grand paradoxe, parle au fin du livre 1.
On lui a abondamment reproché, hein, ce dont vous allez parler. Là,
exactement, hein. Bien entendu, ça fait partie des choses qui nous choquent très légitimement, qui choquent nos oreilles et nos yeux de modernes, et qui nous choquent d'autant plus que nous savons par ailleurs qu'Aristote est un grand esprit, que c'est un philosophe qu'il faut respecter, que c'est un des plus grands philosophes. Parmi les tâches inscrites sur cahier de honte des philosophes, figure le fait qu'un philosophe, dans une société esclavagiste, car les sociétés antiques, Rome, la Grèce, sont des sociétés esclavagistes. Mais si vous regardez l'ensemble des grands philosophes de l'Antiquité, vous ne trouvez presque rien sur ce qui, pour nous, est le scandale par excellence, l'esclavagisme.
Francis Wolff, on va revenir justement sur cette question de l'esclavagisme. Je voudrais juste qu'on entende, parce qu'on s'est bien amusé à préparer cette émission en amont avec Bertrand Chometon, et on a notamment repéré un extrait de Spartacus, le film de Kubrick, qui date de 60, où on entend la voix de Kirk Douglas, en français naturellement, justement, vanter la liberté en des termes qui, alors là, pour le coup, sont peut-être justement anachroniques. Vous nous direz ce que vous en pensez, écoutez.
Cette nuit, une armée romaine va débarquer à Brindisium. Une deuxième armée marche sur nous, venant de l'ouest. Rome veut nous empêcher de quitter l'Italie, elle est fermement décidée. Par conséquent, il ne nous reste plus qu'à marcher sur Rome elle-même. Il faut libérer tous les esclaves qui se trouvent en Italie. Ne vaut-il pas mieux être un homme libre parmi ses frères, à la veille d'une marche épuisante et d'un dur combat, que d'être le plus riche citoyen de Rome, engraissé par le travail des autres et entouré d'esclaves. La route que nous avons faite ensemble est longue. Nous avons livré de nombreux combats, remporté de grandes victoires. Et maintenant, alors que nous devions embarquer sur des navires pour rentrer chez nous, il faut nous battre encore. La paix n'existe peut-être pas en ce monde, ni pour nous, ni pour les autres, je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est qu'aussi longtemps que nous vivrons, nous devrons rester loyaux envers nous-mêmes. Je sais que nous sommes tous frères. Et je sais que nous sommes libres.
Francis Wolff, est-ce que, en parlant comme il le fait, Spartacus, entre guillemets, ne fait pas une sorte d'objection anachronique que la modernité ferait à un système qui justifierait, et au nom du fait même de l'esclavage d'ailleurs, le fait qu'il y ait des esclaves et que finalement, ce qu'ils ont de mieux à faire, c'est de réaliser leur essence d'homme en tant qu'esclave.
Alors évidemment, on est aux antipodes d'Aristote pour deux raisons. D'abord parce qu'on est à un moment important, je pense, de l'histoire romaine, qui est la révolte des esclaves. Et aussi, je dois le dire, parce que ce discours, si généreux soit-il, est quand même en effet un peu anachronique. On a le sentiment de... Voilà, c'est l'homme libéral du XVIIIe siècle qui parle à l'homme libéral.
Libéral et libéré.
Libéral, libéré, voilà. Il y a une sorte d'humanisme universaliste qui est généreux, dont il y a d'ailleurs un certain nombre de prémices dans l'Antiquité. Mais je pense que extrêmement difficile de penser que les révoltes d'esclaves étaient argumentées en ces termes.
Revenons-en, Francis Wolff, justement, donc à la question de l'esclavage et à une question très difficile. D'ailleurs, on parlait de Dieu mardi dernier, mm-hmm, avec Bernard Sicher, en disant que en Dieu, l'acte, même s'il récuse ce diptyque, ou les termes du diptyque, mais l'acte précédait la puissance. On a le sentiment que l'anthropologie d'Aristote, son discours sur l'homme, inverse les termes de cette proposition, et qu'au fond, l'homme est quelque chose en puissance avant d'actualiser ce qu'il est en puissance, ce qui conduirait, devant la présence d'un esclave, à justifier le fait de l'esclavage, au nom du fait que si quelqu'un est un esclave, c'est qu'il l'est devenu, et que par conséquent, il devait le devenir. Est-ce qu'une telle interprétation fonctionne ? Est-ce qu'elle est recevable ? Ou est-ce qu'elle est, là encore, anachronique, en un sens ?
Alors, il faut distinguer deux questions. La question du rapport puissance-acte, dans le cas de l'être, des êtres humains en général, et le cas particulier de l'esclavage, où, il faut bien dire, les textes, en dépit de leur extrême précision argumentative, laissent un peu perplexe sur la position réellement d'Aristote à propos de l'institution de l'esclavage. Alors, concernant le premier point, il est vrai que pour Aristote, le mouvement du développement naturel va de la puissance vers l'acte, mais l'acte qui vient à la fin est, en quelque sorte, la vérité de l'ensemble du mouvement. C'est ainsi qu'on ne peut pas comprendre ce qu'est un homme si on étudie un enfant. On ne peut pas comprendre qu'un homme est un être naturellement parlant quand on en, puisqu'on n'entend pas les petits-enfants parler, mais c'est évidemment au bout du processus que l'on comprend ce qu'est un homme. Et ce qu'est un homme, on le comprend chez l'homme parfaitement réalisé, en bonne santé. Et quand je dis bonne santé, c'est parce que la santé est le modèle y compris de l'homme qui réalise toutes ses potentialités.
Est-ce qu'il n'y a pas de ce point de vue une certaine idée du devoir chez Aristote, quand même, dans la nécessité d'actualiser pleinement ce qu'on porte en soi ?
Alors, il y a quelque chose comme un devoir-être, mais ce n'est pas un devoir au sens de quelque chose qui sera extérieur à l'humanité. Il y a quelque chose comme le fait que le mouvement naturel me conduirait à l'humanité, mais ce mouvement naturel, il faut l'aider. Il faut l'aider avec des parents qui donnent une éducation parfois rigoureuse, avec des lois qui soient bien faites, car sinon, en quelque sorte, une autre nature reprend le dessus, une nature vicieuse. Donc, réaliser naturellement sa nature, ça n'est pas quelque chose de simple ni de facile. Mais là où on a le modèle de la santé est quand même très intéressant, c'est que ça signifie non seulement de ne pas être malade, non seulement d'être parfaitement adapté, mais de réaliser. Quand je suis en bonne santé, j'entends parfaitement, je peux jouir de tous mes sens, de toutes mes facultés, et je peux les utiliser au mieux. Voilà donc l'idée que un développement en quelque sorte naturel. La même chose pour la cité. Au départ, sans doute historiquement, il n'y avait pas de cité. Simplement, on ne comprend l'histoire qui va des petits foyers vers les villages et des villages vers la cité, qui est un mouvement naturel, qu'à la fin. C'est-à-dire au moment où on a enfin une unité qui est la cité, qui est une unité autarcique et qui est la raison d'être de tout le développement antérieur.
Vous parlez, il y a beaucoup de questions. Hein. Vous parlez d'histoire, Francis Wolff. Est-ce que dans la perspective qui est celle d'Aristote, c'est-à-dire la perspective d'une émergence naturelle, donc de la cité, sur le modèle véritablement hein, de l'engendrement naturel de quelque chose, est-ce qu'on peut encore parler d'histoire, justement, ou est-ce que le terme même d'histoire, l'idée même d'histoire, n'est pas née, par exemple, de du fait qu'on parvienne à penser l'aptitude humaine à s'affranchir des déterminations naturelles et par là même à entrer dans l'histoire à la différence des animaux. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, on a bien vu que chez Aristote, comme chez Spinoza d'ailleurs, hein, l'homme n'est véritablement lui-même que là où il vit sous la loi commune. L'ermite est moins homme que le citoyen. Et pourtant, chez Aristote, l'idéal d'existence qu'il propose à un individu, c'est un idéal autarcique. Comment concilier ces deux tendances ? Est-ce qu'elles sont d'ailleurs contradictoires ? Vous avez parlé d'autarcie à propos de la cité. Il parle d'autarcie à propos de l'individu dans l'éthique à Nicomaque.
Alors, il est vrai que l'autarcie constitue pour Aristote un idéal. Le dieu ou les dieux sont autarciques, ils se suffisent à eux-mêmes. D'une certaine manière, il y a un idéal qui apparaît surtout à la fin de l'éthique à Nicomaque, qui est un idéal d'autarcie du sage, qui, en quelque sorte par imitation de la vie divine, se contente d'une vie qu'on appelle contemplative, purement théorique, la vie, j'allais dire du chercheur. En réalité, pour Aristote, l'idée de chercheur n'a pas de sens, puisque le chercheur serait pour lui un inquiet qui cherche toujours autre chose, alors que dans la vie théorétique, je contemple, grâce à mon savoir, l'état du monde. Bon, autrement dit, la vie scientifique ou la vie philosophique. Et dans ce cas-là, je ne demande qu'à la cité de me laisser tranquille. Mais il y a un autre idéal qu'on a parfois considéré comme une contradiction avec le premier, c'est une chose discutée, qui est un idéal de réalisation proprement politique, la vie active par opposition à la vie contemplative. Et dans cet idéal, l'autarcie ne se réalise pas dans l'individu ni par l'individu, mais ne peut se réaliser qu'au sein de la cité et par la cité. C'est au sein, d'une part, parce que c'est par là que je réaliserai toutes mes potentialités pratiques, mais d'autre part, c'est parce que je vais, en quelque sorte, grâce à la cité, bénéficier de quelque chose que seule elle peut me donner, qui est l'amitié, c'est-à-dire la relation affective avec mes semblables.
Que se passe-t-il ? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue, au milieu de la cohue, sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruits. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai.
Francis Wolff, le philosophe Francis Wolff, est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce jeudi, dans une semaine sur Aristote. Francis Wolff, à qui l'on doit notamment un excellent Aristote et la politique, paru aux Presses universitaires de France dans la collection Philosophie.
Que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens...
Francis Wolff, je pressens alors qu'on est à mi-chemin de cette conversation qu'elle va être bien trop courte pour dire tout ce qu'il y aurait à évoquer sur cette question des politiques d'Aristote. On va revenir sur des questions cruciales, denses et problématiques et qui ont été ensuite abondamment discutées et des textes qui ont été abondamment reprochés justement à son auteur. C'est la question de l'esclavage et les questions qui se posent autour de ce fait-là. Dans quelle mesure peut-on exonérer, d'ailleurs le faut-il, Aristote de l'accusation d'esclavagisme qu'on a porté à son endroit? Et au-delà de cette question, peut-être n'est-ce pas tout à fait la même chose d'ailleurs, dans quelle mesure peut-on faire d'Aristote un penseur de la démocratie, autrement appelée l'isonomie? Francis Wolff.
Eh bien oui, c'est un des grands paradoxes d'Aristote que c'est à la fois un apologue d'un certain esclavage et l'apologue d'une certaine démocratie. Ça nous paraît deux choses absolument antithétiques et incompatibles, et pourtant, il y a à la fois matière à indignation et matière à admiration pour un entendement moderne. Matière à indignation. Lorsqu'on lit pour la première fois les trois chapitres qu'Aristote consacre à l'esclavage au livre 1 de sa politique...
Vous dites la politique ou les politiques,
hein? Je dis ce qu'on veut. C'est-à-dire que mon âge me permet d'employer le terme qui était celui des traductions précédentes, la politique. Pierre Pellegrin a popularisé dans son édition GF, par ailleurs tout à fait excellente, le titre « Les politiques ». Il le justifie en partie par le fait que le grec, c'est vrai, dit les livres politiques, mais il dit aussi les livres métaphysiques ou les livres physiques, donc on pourrait multiplier
tous les titres d'Aristote.
Au pluriel. Cela dit, il a raison sur un point, c'est que dans le cas de ces traités qu'on appelle les politiques, qu'il appelle les politiques plus exactement, il y a une diversité d'études qui fait qu'il est extrêmement difficile de penser qu'il l'a conçu comme un livre ou comme un seul traité. Donc on peut justifier le titre « Les politiques ». En tout cas, il faut le distinguer du titre de Platon, le politique, si c'est cela sur quoi il faut insister.
Alors revenons-en aux politiques.
Alors revenons aux politiques et revenons à la question de l'esclavage. Donc quand on lit pour la première fois ces quelques chapitres, je crois que la première et la saine réaction est une indignation. C'est une indignation parce que voilà, on nous dit de lire un des plus grands philosophes de l'histoire, un des plus grands philosophes politiques de l'histoire, et rapidement, on est confronté avec des phrases du genre « oui, l'esclave est un outil animé qu'on va distinguer des autres types d'outils, etc. » Donc une saine réaction d'indignation est parfaitement légitime, salutaire. Bon. Dans un deuxième temps, je crois qu'il faut, une fois que la colère est retombée, il faut relire soigneusement le passage et d'abord voir quelle est la situation à l'époque d'Aristote et comparer ce que dit Aristote avec la situation de son époque. C'est-à-dire qu'on peut, il y a deux choses immédiates qu'il faut remarquer. La première, c'est qu'à l'époque d'Aristote, une grande partie de ce que nous appelons les esclaves, qui est un statut avant tout juridique, ne l'oublions pas. Il peut y avoir des esclaves banquiers, il y a des esclaves policiers. Bon, nous nous imaginons que l'esclave uniquement est une force de travail qui travaille dans les mines, etc. Il y en a aussi. Mais l'esclave peut avoir des fonctions sociales extrêmement diverses. Hein.
Vous voulez dire que l'esclave peut donner des ordres ?
Non, il peut prêter sur gage, il peut faire de l'argent, il peut faire beaucoup de choses comme ça. Il a donc d'une certaine manière un certain pouvoir, mais si vous voulez, il n'a aucun statut juridique et dans certaines conditions, il peut être purement réduit à un état de bête de somme, encore qu'il y a des lois qui protègent dans certains cas les esclaves de l'excès des mauvais traitements. Bon, mais ce qu'il y a de plus étonnant quand on relit ces passages, c'est que Aristote étudie l'institution de l'esclavage au travers de l'institution de la famille. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Il ne va pas l'étudier comme à l'intérieur d'une institution que seraient, par exemple, les exploitations minières, l'agriculture, en se disant, bon, comment on va extraire tel ou tel minerai, etc. Non, à l'intérieur de la famille, comme un des trois types de relations familiales. Le père, les parents, les enfants, le mari, la femme, et les maîtres, les esclaves, ou plus exactement, les esclaves domestiques, au sens strict du terme, c'est-à-dire qui sont à l'intérieur du domaine, qui sont à l'intérieur. Bon.
Donc, on est ici dans le cadre du foyer, hein, de cette communauté naturelle que constitue le foyer en grec oikos, c'est-à-dire qui a donné lieu à l'économie.
Exactement.
C'est-à-dire la loi du foyer.
La loi du foyer, avec traversée par ces trois relations de pouvoir, pour Aristote. Car de la même façon,
homme-femme, père-enfant, voilà, maître-esclave.
Exactement. Homme-femme, il y a avec, on peut s'en indigner tout autant, à cela près qu'il dit qu'entre le mari et la femme, il y a une relation de commandement naturel, parce que généralement, l'homme est plus apte au commandement et la femme plus apte à l'obéissance, entre êtres naturellement égaux. Alors, bon, comprenne qui pourra. Hein, il y a une aptitude au commandement, à cela près qu'il y a des relations d'égalité entre les mères.
C'est peut-être par induction qu'Aristote constate que le plus souvent, c'est le mari qui prend le pouvoir et que par conséquent, ça devient une norme.
Oui, mais le généralement signifie aussi par nature, parce que pour Aristote, la nature, c'est pas forcément l'universel, c'est ce qui se passe le plus souvent, en tout cas dans notre monde. Dans notre monde sublunaire, la généralité tient lieu de nature, il y a toujours des exceptions. Bon, et je suppose qu'il considérerait que les femmes qui, comme on dirait aujourd'hui, portent la culotte sont l'exception dans les foyers qui fonctionnent.
Et qu'à cet égard, elles confirment la règle. Donc.
Et qu'à cet égard, elles confirment la règle, ou plus exactement la nature. Et donc, mari-femme, relation entre égaux. Parents-enfants, relation entre inégaux naturels. Bon, mais potentiellement, l'enfant est un adulte qui sera en acte un égal parmi les égaux. Très bien. Et maître domestique ou maître esclave, relation entre être ou entre être humain. Parce qu'il le dit très clairement, il a le logos, c'est-à-dire l'aptitude au langage et même à la raison, mais naturellement inégaux. Et c'est là qu'on a la deuxième surprise. Parce qu'au premier chapitre où il analyse l'esclavage, il ne va pas du tout commencer par étudier l'institution qu'il a sous les yeux. Il va se poser une question, à nos yeux très étrange, mais qui va inverser les problèmes en disant qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ce serait un esclave naturel. Alors, il plaque sur les relations humaines un schéma, en quelque sorte, hiérarchique, qui est son schéma cosmologique. Il a un schéma cosmologique en tête, c'est-à-dire que dans le monde, le supérieur commande à l'inférieur pour le bien du supérieur et de l'inférieur. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que quand je sens en moi des manques, ils ne peuvent être comblés que par supérieur à moi, par exemple dans la relation qu'un élève a vis-à-vis de son maître ou qu'un enfant a vis-à-vis de ses parents, n'est-ce pas ? Il est bon pour l'enfant lui-même, d'obéir à ses parents.
On retrouve cette idée d'ailleurs chez Confucius, où le maintien des hiérarchies Exactement. N'est pas contradictoire avec le respect de la dignité qu'on doit à chacun.
Exactement. Et alors, une interprétation marxiste, par exemple, dirait que c'est le fait de tous les naturalismes d'expliquer aux gens exploités, aux prolétaires, aux esclaves, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien que nous vous exploitons, car sans nous, vous ne seriez rien. C'est la justification du colonialisme qu'on a toujours donnée. Nous allons leur apporter la civilisation, c'est-à-dire la nôtre. Nous allons leur apporter ce qu'ils n'ont pas. Bon. Donc, il y a, et beaucoup de marxistes, ou pas forcément d'ailleurs orthodoxes, ont dénoncé l'idéologie qui consiste à justifier l'asservissement par le bien de l'asservi et pas simplement pas pour le bien du maître.
Donc, déguiser en nature ce qui relève d'une coercition, en fond.
Exactement. La nature a bon dos. La nature a souvent bon dos. Alors, dans le cas d'Aristote, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il commence à essayer d'expliquer ce que serait un esclave naturel. Et qu'est-ce que c'est qu'un esclave naturel ? Eh bien, c'est quelqu'un qui ne sait pas se commander à lui-même. C'est quelqu'un dont l'esprit est trop faible pour pouvoir, en quelque sorte, se guider lui-même dans la vie, comme l'esprit d'un enfant ou de certaines sociétés. Puis on trouve cette idée aussi chez d'autres auteurs, qu'il y a des peuples mineurs. Donc on peut imaginer que le bon esclave domestique, ou plus exactement naturellement esclave, c'est celui qui a un corps robuste et un esprit un peu faible, qui peut comprendre les ordres, qui peut les admettre et qui, avec qui d'ailleurs qu'on traite gentiment, mais qui ne peut, avec lequel on ne peut avoir que des relations de commandement. Et le maître naturel. C'est celui qui, au contraire, se commande à lui-même, sait ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour l'esclave et ce qui est bon pour la communauté, le foyer qu'il forme. Voilà. Le problème, enfin, les deux problèmes sont les suivants, c'est que quand vous allez voir autour de vous, c'est-à-dire plus exactement si Aristote fait le tour de ce qu'il voit autour de lui, eh bien, est-ce que c'est comme ça que les gens ont acquis leurs esclaves ? Pas tellement, parce que soit c'est des prises de guerre, bon, et alors ça devient le droit du plus fort, on n'est plus dans le droit...
On aurait la ratification naturaliste de ce qui relève juste du droit du plus fort.
Exactement, ou des circonstances de guerre particulières. Parce que vous avez pris votre porte-monnaie, vous êtes allé au marché aux esclaves, vous vous êtes dit, bon voilà, j'achète celui-là parce que j'en ai les moyens. Évidemment, il y a fossé complet entre l'esclavagisme naturaliste d'Aristote et l'institution telle qu'elle fonctionne. De là le fait qu'il va renvoyer dos à dos ce qui à la fois condamne l'esclavage et à la fois ceux qui, en quelque sorte, font l'apologie de l'esclavage tel qu'il se trouve, il les renvoie dos à dos en disant en réalité, les choses ne devraient pas se passer de cette façon-là. L'esclavage esclavagiste, oui, mais pour un esclavagisme naturaliste. Alors, est-ce que...
Au fond, le problème, c'est que les maîtres déshonorent l'esclavage ? Le problème... La façon dont Bernanos pouvait dire de Hitler qu'il déshonorait l'antisémitisme.
Oui, alors là, je ne sais pas si on peut l'honorer. Mais dans le cas d'Aristote, oui, on peut dire que la manière dont l'esclavagisme institutionnellement était pratiqué déshonore ou en tout cas pervertit ce qu'il y aurait pour Aristote de sauvable et même de juste dans une institution de l'esclave domestique. Le point, je répète, fondamental, c'est que Aristote le place dans le cadre des relations intrafamiliale.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, alors du coup, pardon Francis Wolff, une brèche dans le naturalisme aristotélicien qui serait justement ces atermoiements autour de la question de l'esclavage, cette incertitude, ou bien le constat que les faits démentent ce qu'il semble appeler de ses voeux ou ce qu'il voudrait décrire, à savoir cette naturalité de la société. Est-ce que finalement, Aristote ne découvre pas ici, j'allais dire, presque le droit d'une certaine manière? Est-ce qu'il n'y a pas une tension à l'intérieur de la pensée d'Aristote, justement, entre, parce qu'il est honnête, entre d'un côté ce qu'il voudrait voir ou qu'il croit décrire, et d'autre côté ce qu'il voit effectivement et qui semble contredire.
Alors, c'est vrai, en ce sens que les réalités qu'il a sous les yeux, et particulièrement dans le cas de l'esclavage, qui constitue, il est vrai, un cas assez particulier dans les analyses aristotéliciennes, puisque c'est un des très rares cas où Aristote ne commence pas, comme la plupart du temps, par analyser les positions en présence, les opinions des uns et des autres, opposer les faits qui qu'on trouve ici aux faits que l'on trouve là, et en essayer d'en dégager une espèce de vérité à partir de la confrontation empirique des faits ou des opinions. Il fait tout à fait le contraire. Il fait, et c'est très exceptionnel, un certain nombre de commentateurs l'ont relevé à juste titre, c'est très exceptionnel chez lui, qui commence par dire « voilà ce que devrait être l'esclave » et en fait, voilà pourquoi les choses... Bon. Donc il y a, est-ce que c'est signe d'une gêne de sa part? J'ai l'impression que...
Ou est-ce que c'est anachronique de le dire, là encore?
Je ne sais pas. Je crois qu'il y a peut-être plus de gêne de la part de tous ces autres philosophes qui n'en ont jamais parlé, tout en profitant probablement, que de la part de celui qui a été confronté à un problème très épineux pour son anthropologie. Car pour lui, il ne fait pas de doute, je le répète, que les hommes, un, sont tous naturellement non seulement aptes à la vie politique...
Et que les esclaves sont des hommes.
Que les esclaves sont des hommes, et surtout qu'ils le sont parce qu'ils disposent du logos, c'est-à-dire de quelque chose qui est à la fois le langage, la raison. Simplement, ça c'est, je dirais, le piège de l'essentialisme, de beaucoup d'essentialisme.
Ce que vous appelez, je précise juste, ce que vous appelez essentialisme, c'est toute doctrine finalement qui considère que le développement humain, ou plus exactement que le fait d'avancer dans la vie, n'est que le développement d'une essence préalable. Exactement. Et que nous ne faisons qu'actualiser ce que nous portons en germe à la façon dont le chêne actualise exactement le grain qui lui a donné le jour.
Exactement. Le grand avantage de l'essentialisme, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous n'avons pas à nous poser la question que faire. Ce que nous avons à faire, c'est ce que nous sommes, et donc j'ai à réaliser mon essence. Il suffit que j'ai bien compris ce que c'est que mon essence. On trouve ça aussi chez les stoïciens. Mon essence est définie par mon ergon, par mon officium,
ma fonction propre.
Ma fonction propre, exactement, par ma fonction propre. Une fois que je l'ai bien comprise, je la réalise et quoi qu'il arrive, je serai heureux, je ferai quelque chose qui est bon. Il n'y a pas de différence entre être bon. Ça, c'est le grand avantage. Le grand inconvénient, c'est que ça ne correspond pas aux réalités. Alors, si tous les hommes ont la même essence par définition, mais on est tous différents. Alors, comment comprendre cette différence? Eh bien, on va l'interpréter, en tout cas dans le cas d'Aristote, en fonction du schéma, par ailleurs, naturaliste hiérarchique qu'il a dans la tête. Il y a des hommes qui sont plus ou moins hommes. On a tous le logos, mais comme le logos a deux fonctions, à l'intérieur même de l'âme humaine, une fonction d'obéissance, une fonction de commandement, il y en a chez qui le logos a plutôt la vocation du commandement et d'autres plutôt la vocation de l'obéissance. De telle sorte que l'essentialisme résout un énorme problème qui est le fondement du problème de l'éthique, et en même temps pose immédiatement un autre, comment rendre compte de l'extraordinaire diversité des hommes entre eux. Et on va expliquer assez vite ces différences en termes d'inégalité.
Comme il nous reste, figurez-vous, 3 minutes à peine, que le temps passe à une vitesse folle quand on vous écoute, je voudrais quand même qu'on en vienne à cette question difficile d'Aristote et de l'isonomie. Justement, vous parliez d'inégalité, venons-en au régime qui veut une loi égale pour tous, isonomie. On a vu dans quelle mesure Aristote s'opposait aux sophistes, parce que les sophistes sont des conventionnalistes. Bon, et qu'Aristote ne l'est pas. Aristote est un naturaliste politique. critique, mais un naturaliste quand même. On peut voir dans quelle mesure les sophistes eux-mêmes sont plus spontanément démocrates, d'une certaine manière, de façon qu'ils ont de ne pas adhérer à une vérité absolue, de ménager la possibilité pour le plus éloquent d'emporter les suffrages des gens. Bon, en ce qui concerne Aristote, c'est plus compliqué. Comment tirer de l'ontologie d'Aristote, de sa vision du monde, de son discours presque sur Dieu, ou en tout cas de son anthropologie, un éloge, peut-être, du régime démocratique. Vous avez donc 2 minutes 30 pour nous l'expliquer, Francis Wolff.
Alors, démocratique, peut-être pas au sens strict qu'avait ce terme pour Aristote, qui est souvent utilisé de façon péjorative, mais en effet plutôt au sens général que ce régime avait originellement, qui est isonomie. Aristote n'emploie pas ce terme, mais un régime dans lequel tous sont égaux et dans lequel une assemblée délibérative prend des décisions meilleures que un roi, par exemple, ou que les aristocrates, c'est-à-dire que les meilleurs d'entre nous. Alors là, il y a en effet...
La masse prise en corps, dit-il, est supérieure aux individus, même les meilleurs.
Exactement. Ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant qu'on trouve dans le livre 3, au chapitre 11 de la politique ou des politiques. C'est-à-dire l'idée tout à fait moderne et tout à fait extraordinaire que lorsque nous délibérons ensemble... il se forme entre nous, en grande partie parce que nous sommes liés par un lien, la citoyenneté, l'idée que nous appartenons à une même communauté. Nous formons un corps de telle sorte que, à condition qu'il y ait quelques-uns d'entre nous qui nous éclairent, hein, si nous sommes tous des malfaiteurs, ça va se passer mal, mais à cette condition, il va finir par se prendre une décision en matière de délibération ou en matière judiciaire, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui était fréquent en Grèce, meilleur que ce que aurait pu prendre le meilleur esprit.
Est-ce qu'on peut dire, Francis Wolff, qu'Aristote dénonce la perversion individualiste de la démocratie, plus que la démocratie elle-même, et qu'au fond, il serait assez, pardon pour l'anachronisme, hein, Dieu me pardonne, tocquevillien, en ce
Alors,
sens.
En gros,
il faudrait participer à la vie de la cité.
En tout cas, par opposition à ce qu'on a pu appeler la liberté des modernes, la liberté des anciens telle que la conçoit Aristote, c'est une liberté dans laquelle il faut en effet participer à la vie commune. Je pense néanmoins que son éloge de quelque chose comme la délibération démocratique lutte contre deux types d'écueils. D'un côté, une loi qui serait aveugle au cas particulier, alors que dans une masse, lorsqu'il y a une masse de délibération, on tient compte de tout un tas de cas particuliers dont on n'aurait pas pu tenir compte. Et d'un autre côté, le fait qu'un roi, même le meilleur des rois, le plus éclairé, est forcément un homme et donc cède toujours à ses humeurs ou à ses passions.
Voilà, chers auditeurs, cette émission était la façon que nous avons trouvé de vous appeler à voter. Tiens, dimanche prochain, participer justement à la vie de la cité. Vous votez pour qui vous voulez, mais vous y allez en tout cas. Aristote, les politiques, l'édition de Pierre Pellegrin, on en a parlé tout à l'heure, se trouve en Garnier Flammarion. Et Aristote et la politique, par vous, Francis Wolff, un très bon livre aux Presses universitaires de France dans la collection Philosophie.
Citoyens dans l'aventure démocratique. Fais de la politique.
Si tu n'en fais pas, c'est elle qui te fabrique. Sans que tu le saches, elle te domestique. Sans examiner ni les paroles ni la musique. Tu joues la partition des fanfares idéologiques. Et même le soyant est authentiquement critique. Tu entends les anciennes partisanes phobiques. Quand tu dis classique d'une pique. Ce que tu laisses organiser la vie publique. T'abandonnes souriant la liberté.
parachitique. Les polémiques et morceaux des questions périphériques ou de leur opposer de grandes idées utopiques qui renforcent leur statut d'autorité technique.
Et voilà, 10h50 sur France Culture. Il est toujours 10h50 sur France Culture. Et on retrouve comme tous les jours le journal des nouveaux chemins de la connaissance. Et Adèle Van Redt. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
Vous nous parlez aujourd'hui des expériences de la douleur.
Oui, on change complètement de sujet puisqu'on va parler d'un excellent livre qu'on trouve en ce moment en librairie et qui parle de la douleur, donc des expériences de la douleur entre destruction et renaissance. L'auteur de ce livre est le sociologue David Le Breton qui est avec nous en duplex depuis Strasbourg. Bonjour David Le Breton.
Bonjour Adèle.
Vous avez beaucoup travaillé sur le corps en général et sur la douleur en particulier. Vous avez écrit de nombreux livres sur le sujet, notamment un ouvrage sur les blessures de soi, intitulé « La peau et la trace », et notamment, entre autres, également une anthropologie de la douleur. Mais dans ce livre, donc « Expérience de la douleur entre destruction et renaissance », vous partez d'une distinction très importante, qui est la distinction entre la douleur et la souffrance. Alors, pourquoi est-ce que cette distinction est importante, déjà tout d'abord? Et est-ce que cette distinction consiste en la répartition suivante? La douleur serait le versant physique, organique, de la souffrance qui, elle, serait d'ordre psychique. Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça, David Le Breton?
Pour moi, il n'y a pas de différence entre... Il n'y a pas de douleur plutôt sans souffrance. La douleur, évidemment, n'est pas le fait d'un organisme, mais d'une personne. Et ce n'est pas le corps qui souffre, mais c'est l'individu en son entier, à travers toutes les composantes de ce qu'il est, c'est-à-dire à travers son origine sociale, culturelle. S'agit-il d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'une personne âgée, et aussi fondamentalement l'histoire de vie, et puis les circonstances qui voient apparaître justement la douleur. Il n'y a pas, pour moi, de peine physique qui n'entraîne un retentissement dans la relation de l'homme au monde. C'est-à-dire que toute douleur donc, a forcément un impact moral et donc une dimension de souffrance. Le mal de dent n'est pas dans la dent. Il retentit dans l'existence tout entière. Il fait que ce jour-là, ce jour où nous avons mal, notre vie va être complètement modifiée. Toutes les choses que nous réjouissions de réaliser, elles vont être percutées. Nous n'aurons plus goût à rien, comme on le dit très souvent. Voilà, donc la douleur déborde toujours le corps et elle va vers l'existence. Il y a aussi d'ailleurs cette dimension de métamorphose de la douleur. Hein. La douleur toujours nous change. D'ailleurs, elle est souvent utilisée dans les rites de passage des sociétés traditionnelles. La douleur nous métamorphose donc pour le meilleur ou pour le pire, c'est-à-dire elle peut nous amoindrir dans le cas par exemple de la maladie grave, des séquelles d'un accident ou autre, mais elle peut aussi évidemment élargir notre rapport au monde, nous révéler une version de nous-mêmes beaucoup plus heureuse, beaucoup plus large.
Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut comprendre la souffrance comme étant un élargissement de la douleur à l'existence ?
Voilà, c'est ça. J'entends par souffrance finalement le degré de pénibilité de la douleur, sa mesure subjective en quelque sorte, sa puissance d'impact. Et elle est fonction, cette souffrance, toujours du sens que revêt la douleur pour la personne. Et elle est plus ou moins intense selon les circonstances. En d'autres termes, donc la douleur n'est jamais le simple prolongement d'une altération organique, mais toujours une activité de sens pour l'individu. Elle est ce que l'individu en fait. Voilà, donc il n'y a pas de douleur qui ne soit contenue dans une souffrance, mais cette souffrance peut être infime et peut donc contribuer à la métamorphose heureuse de l'individu, ou bien elle peut être absolument écrasante et contribuer à sa dépersonnalisation. Et c'est tout le parcours justement du livre de montrer que dans là où la douleur peut contribuer à une renaissance, à une redéfinition de soi, elle est plutôt du registre du contrôle, c'est-à-dire je décide du moment où je me fais mal, comme par exemple dans le sport, dans le body art, dans des expériences contemporaines comme celle de la suspension, etc. En revanche, la souffrance peut nous écraser quand elle est de l'ordre du subi, quand on a l'impression de n'avoir aucune prise sur elle.
Oui, cette relation de la douleur au sens est très intéressante. Vous avez cité tout à l'heure, je pense, qu'Anguilhem, quand vous dites que l'homme fait sa douleur plus qu'il ne la reçoit ou la subit. Oui, cette relation au sens est intéressante puisque finalement vous montrez que l'individu souffre moins de sa douleur que du sens que de l'absence de sens qu'elle possède pour lui. Et vous citez notamment l'exemple de Job dans le livre de Job. Vous montrez que la souffrance de Job vient moins de sa douleur que de son incompréhension. Et ça, finalement, on le retrouve notamment dans un chapitre en particulier que vous avez intitulé Douleur et sens, mais aussi dans les autres chapitres que vous montrez bien qu'on a finalement un contrôle sur cette douleur et qu'on peut maîtriser en lui assignant un sens, c'est sa douleur, en fait, la douleur que l'on fait naître nous-mêmes.
Même, je crois que même dans le pire, d'ailleurs, par exemple dans la maladie grave ou dans les séquelles de l'accident, on dispose aujourd'hui de toute une série de techniques du sens, de techniques du corps, qui permettent à des personnes en souffrance de réguler, de moduler l'intensité de la violence qu'ils subissent. On peut parler de l'hypnose, de l'auto-hypnose, de la relaxation, de l'imagerie mentale, de la sophrologie, etc. C'est-à-dire que ce sont autant de techniques de sens qui permettent à l'individu de se descendre entrer justement de sa souffrance pour essayer d'en faire quelque chose et pour essayer aussi d'utiliser des techniques de diversion, entre guillemets, de ne pas se focaliser sur elle, puisque là, on sait que lorsqu'on a mal, il faut surtout éviter de penser au fait qu'on a mal, parce que plus on y pense, évidemment, et plus on a mal. Hein, c'est à la limite l'expérience banale d'une mère qui raconte une histoire à son enfant qui a mal à la tête, par exemple, et l'enfant va être emporté par l'histoire et va oublier son mal de tête pendant toute la durée de l'histoire, mais nous sommes un peu toujours à la manière de ces enfants. Nous avons besoin, pour contrôler la part de souffrance de qui nous frappe, nous avons besoin donc d'utiliser des techniques qui permettent de reprendre le contrôle. Et à partir du moment où on reprend le contrôle de la douleur, la souffrance diminue infiniment.
Oui, et alors il y a un chapitre qui est particulièrement intéressant, c'est le troisième chapitre où vous montrez que la douleur, en fait, est nécessaire, que la douleur est nécessaire pour exister. Un individu qui ne pourrait pas ressentir la douleur serait sans arrêt menacé de mourir, oui. Puisque la douleur est un indice d'un mauvais fonctionnement de son propre corps. Oui, et donc, en fait, c'est intéressant d'aborder la question de la douleur sous cet angle-là, qu'une vie sans douleur est impensable et que finalement, la douleur, c'est un donné de la condition humaine elle-même.
Oui, alors on peut, bien sûr, la douleur est une sorte de signal d'alarme qui nous alerte sur le fait qu'une maladie progresse et qu'il est temps de se prendre en charge. Mais en même temps, évidemment, les médecins ont souvent pointé le fait que le signal d'alarme se dérègle souvent. C'est le cas de la douleur rebelle, de la douleur chronique, par exemple la névralgie du trijumeau ou parfois d'ailleurs des fins de vie qui sont absolument écrasantes et on se demande ce que peut rajouter à la personne qui meurt d'un cancer cette souffrance qu'il a défigure, qu'il a détruit complètement. Donc, la douleur est quand même infiniment ambivalente. Hein. Elle est en effet une alerte essentielle pour sauver nos existences. Et d'ailleurs, les personnes qui sont atteintes d'un syndrome congénital de non-sensibilité à la douleur sont des hommes ou des femmes qui généralement meurent très vite. Hein. Ils vont manger des aliments qui sont brûlants sans s'en apercevoir. Ils vont se coincer un doigt.
Merci David Le Breton, je suis désolée. On est obligé d'interrompre cet entretien maintenant, puisqu'on est déjà au terme de l'entretien. Mais en tout cas, je rappelle le titre de votre livre, qui est donc un excellent livre, et je recommande sa lecture à tout le monde. « Expérience de la douleur au pluriel, entre destruction et renaissance », et c'est aux éditions Métellier.
Ouais, c'est une douleur d'interrompre cet entretien. Vous vouliez nous parler de la philosophie du jardinier aussi, Adèle.
Oui, les éditions Milan publient ce mois-ci une petite philosophie du jardinier. L'auteur est Martine Lafont, qui nous montre que si on n'a pas besoin d'être philosophe pour profiter d'un espace à soi qui fleurit au printemps, on peut essayer de penser le jardin comme une petite leçon de philosophie, celle de l'éphémère et de la durée, et celle aussi d'une nature sauvage que l'on veut à tout prix maîtriser. Alors si on y réfléchit, qu'est-ce qui est en jeu dans le désir d'avoir un jardin? Et que veut dire Candide, par exemple, lorsqu'il affirme qu'il faut cultiver notre jardin? Alors l'auteur s'intéresse à tout ce qui fait un jardin, de la graine à l'arbre, de la mauvaise herbe au potager, des jardins ouvriers au jardin des ronds-points. C'est un livre qu'on lit comme on se promène, au gré des références littéraires et philosophiques. Ça s'appelle donc Petite philosophie du jardinier, et c'est aux éditions Milan.
C'est noté, Adèle. On retrouve tout ça sur notre site internet à la page des nouveaux chemins de la connaissance. J'ai à peine le temps de vous donner rendez-vous demain de 10h à 11h, comme tous les jours, pour la suite et la fin de cette semaine sur Aristote, en compagnie d'Anne Merker, qui vous parlera de l'éthique à Nicomaque. On se retrouve aussi donc, comme tous les jours, à toute heure du jour et de la nuit, sur Internet, à la page des Nouveaux Chemins, pour y réentendre et télécharger toutes nos émissions. À demain matin, donc, France Culture, 10h59. Dans un instant, question d'époque.